Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Ce matin, Dieu nous a beaucoup encouragés et je crois qu'il va encore nous encourager à travers le message. C'est une exhortation que je vais vous partager. Dans le livre de Philippiens, au chapitre 3, nous lirons à partir du verset 10. Dis à ton frère, sois concentré. Dieu a une parole pour toi ce matin. Le thème de mon message sera « Pourquoi les souffrances ?» Pourquoi Dieu permet les souffrances ? Je pense que c'est la question que beaucoup d'entre nous se posent ou se sont déjà posées un jour. Pourquoi les souffrances ? L'apôtre Paul répond « Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ Jésus. Nous tous, donc, qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Alléluia. Le mot parfait ici renvoie à mature, renvoie à mûr, renvoie à adulte, en grec adultis. Mais le mot mature aussi est attaché à la personne du Saint-Esprit. Lorsque Jésus parle au jeune homme riche, il dit « Si tu veux être parfait, vends tout ce que tu as ». En fait, le Saint-Esprit est celui-là qui nous amène à la perfection parce que le Saint-Esprit est le lien de la perfection. Voilà, nous sommes considérés par Dieu comme parfaits. Ce n'est pas parce que nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes parfaits, mais parce qu'il nous regarde au travers du sang de Jésus, nous regarde au travers du Saint-Esprit, à travers l'œuvre de la nouvelle naissance, nous sommes rendus parfaits, justes, justifiés. Et nous qui avons cette grâce d'avoir été nés de nouveau, d'avoir été sanctifiés, justifiés gratuitement, d'être considérés comme des hommes parfaits aux yeux de Dieu, la Bible déclare, nous devons avoir cette même pensée. Laquelle ? Celle qu'on va partager ensemble aujourd'hui. Ça va changer ta vie. Beaucoup de chrétiens se posent la question, pourquoi tant de souffrances dans ma vie ? Pourquoi tant d'épreuves ? C'est une question qu'on a essayé déjà de répondre à plusieurs reprises à travers les messages, mais c'est une question qui reste posée dans son entièreté, parce qu'au-delà des éléments de réponse qu'on a eus, on n'a peut-être pas vraiment réalisé la profondeur de ce que Dieu voulait nous enseigner. Pourquoi les souffrances ? Et à travers ce passage, l'apôtre Paul va nous aider à comprendre pourquoi les souffrances. L'apôtre Paul dit, afin de connaître Christ. Dans notre version, il dit, mon but est de le connaître. La communion de ses souffrances et la puissance de sa résurrection. Alléluia. Voyez-vous, il y a une conjonction de coordination qui est utilisée ici entre la puissance de la résurrection de Christ et la communion des souffrances de Christ. Il y a un lien. Dites un lien. Un lien étroit entre les deux. Il n'y a pas de puissance de Christ sans les souffrances de Christ. La Bible déclare que c'est à travers les souffrances de Christ à la croix que nous avons été guéris. Le prophète Esaïe nous le dit. Il dit qu'il a cru à ce qui a été annoncé, qu'il a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant nous comme une faible plante. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on tourne le visage, nous ne l'avons même pas considéré, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Il s'est chargé de nos iniquités à la croix. Nos douleurs, il les a prises. Nos souffrances, nos malédictions, il les a prises sur lui. Il s'est fait malédiction à notre place, au point où même le Père a détourné son regard de lui à la croix. Il était sali par nos péchés. Il a pris tout sur lui. Il nous a tellement aimés. Il a dit qu'il a tant aimé le monde. Son amour est si grand qu'on ne peut pas le mesurer, ni comprendre la profondeur, ni la largeur, ni la hauteur, ni la longueur. À moins que Dieu nous accorde la révélation par le Saint-Esprit, à moins que Dieu nous ouvre l'intelligence, on ne peut pas comprendre humainement l'amour de Christ. Quelqu'un qui quitte son trône de gloire, il est Dieu qui prend une forme humaine, qui descend sur la terre et qui meurt à la croix parce qu'il t'aime. Et parce qu'il ne veut pas que toi tu meurs. La Bible déclare que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est-à-dire que nous aurions dû subir ce châtiment-là. Parce qu'à l'époque, à la croix, on clouait des brigands. On clouait des voleurs, des criminels. Donc c'était à nous de passer à la croix, d'être cloués, parce que nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, égarés dans nos péchés, criminels, voleurs. Nous avons en réalité mérité de passer par la croix. Mais Jésus est venu prendre notre place. Il a été cloué à la croix. Lui qui n'a point commis de péché, qui n'était pas pécheur, il s'est fait pécheur. Et même il s'est fait pécher pour nous, pour moi, pour toi. Est-ce que tu peux comprendre un aussi grand amour? Il est mort pour toi à la croix. J'aimerais vraiment que nous soyons concentrés et qu'on attrape les enfants. J'aimerais que ce message puisse vraiment nous aider tous, parce que je crois que Dieu me parle aussi. Et la Bible déclare à la fin du passage du prophète Esaïe, il dit, c'est par ces meurtres sûrs que nous avons été guéris. C'est quoi les meurtres sûrs? Ce sont des flagellations. Quand quelqu'un est flagellé, ces flagellations sont des meurtres sûrs, des blessures. Les meurtres sûrs sont aussi des souffrances, parce que quand tu es flagellé, tu souffres. Comme Jésus a souffert, son sang a coulé, il a été flagellé. Imaginez, on le traîne à la croix. La Bible dit que comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Ils l'ont traîné à la croix. Ils l'ont percé sur le côté avec une lance. De son côté, de l'eau est sortie, le sang est sorti. Comme symbole de la naissance de son épouse, l'Église, de la même manière que pour que Ève sorte, Dieu a dû ouvrir la côte d'Adam pour faire sortir Ève. De la même manière, pour que l'Église, l'épouse de Christ, sorte, il a fallu qu'on ouvre sa côte. On a percé son côté et de l'eau et du sang sont sortis. L'eau qui est le symbole de la parole et le sang qui est la vie. La vie est dans la parole. Et la Bible déclare que ces trois choses sont d'accord. L'eau, le sang et la parole. Nous sommes nés de là. Et Jésus a dû souffrir pour que nous soyons nés, que nous puissions sortir. Que nous puissions sortir de lui. C'est pourquoi la Bible déclare que homme, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et s'est livré lui-même pour elle en la sanctifiant par la parole. Si tu peux aimer ta femme comme Christ a aimé l'Église, alors tu peux être sûr que ta femme te sera soumise. Parce que la Bible déclare que, par la suite, femme, soyez soumise à vos maris. Parce que, forcément, il y a un lien entre le fait que l'homme aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église, et le fait que la femme se soumette à l'homme. Donc, la soumission de la femme à l'homme découle de l'amour que l'homme a manifesté ou manifeste à l'égard de sa femme. Donc, il y a un lien étroit entre ce que l'apôtre Paul dit à l'homme, dit « Homme, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. » Et ce qu'il dit à la femme, « Femme, sois soumise à ton mari. » Tous les hommes qui aiment ou qui aimeront leur femme comme Christ a aimé l'Église n'auront pas de mal à se faire respecter par leur femme. N'auront pas de mal à avoir leur femme être soumise. Parce que la soumission est une conséquence de l'amour qu'on manifeste à l'égard de quelqu'un. Mais nous aussi, épouses de Christ, devons comprendre que Christ nous a aimés. Il nous a tellement aimés qu'il est mort pour nous à la croix. Il a souffert. Et la souffrance dont il a souffert, nous ne pouvons pas la souffrir. Aucun être humain sur la terre ne peut souffrir ce dont il a souffert. Ce n'est pas possible. La Bible déclare que dans le ciel, il ne fut trouvé personne qui ait été trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Personne. Et la Bible déclare, et je pleurais de ce que personne ne fût trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et gloire à son nom, parce que dans le ciel, une voix se fait entendre. Ne pleure pas, parce que voici l'agneau qui a vaincu, a été trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et cet agneau, c'est qui? Jean-Baptiste nous le présente. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Cet agneau n'est pas un animal comme autrefois. On immolait des agneaux innocents pour que leur sang servent de purification pour purifier les péchés. Mais la Bible nous révèle que le sang des agneaux, des taureaux et des boucs à l'époque dans la Sainte Alliance ne pouvait même pas enlever vos péchés, ne pouvait pas les ôter, purifier pour un temps et différer le jugement de Dieu. Couvrait simplement vos péchés. Jésus-Christ de Nazareth est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Et l'agneau dont il s'agit ici, vous l'avez compris, C'est Jésus, Jésus-Christ de Nazareth, l'anneau de Dieu, a seul été trouvé digne et capable d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Il s'est porté volontaire. Il n'y avait personne, aucun ange, même pas les 24 vieillards. Aucun. Pour dire qu'aucun homme ne peut mourir pour toi à la croix. Mais Jésus l'a fait pour toi. Voilà. Mais ici, l'apôtre Paul nous dit, pour connaître Dieu, nous avons besoin de découvrir, d'avoir accès, un, à la communion de ses souffrances, deux, à la puissance de sa résurrection. Dites la communion de ses souffrances et la puissance de sa résurrection. La conjonction de condamnation « et » ici ne fait pas seulement place à un mot suivant. La conjonction de condamnation « et » établit un lien entre la communion de ses souffrances et la puissance de sa résurrection. Dites qu'il y a un lien. Il y a un lien entre les souffrances de Christ et la puissance de sa résurrection. Il a fallu que Jésus souffre pour que tu sois guéri. Alléluia. Donc il y a une puissance dans les souffrances de Christ. C'est pour cela que le prophète Esaïe dit, par ses maîtres sûrs, nous avons été guéris. Par ses maîtres sûrs, nous avons été libérés. Par ses souffrances, nous avons été guéris. Donc il y a une puissance dans les maîtres sûrs de Christ. Il y a une puissance de guérison. Il y a une puissance de restauration. Il y a une puissance de reconstruction. Je ne sais pas ce dont tu as souffert jusqu'à présent, mais je crois à la puissance du sacrifice de la croix. Et qu'à travers les maîtres sûrs de Christ à la croix, tu as été guéri. Alors à travers ces souffrances, la puissance de Dieu se manifeste afin que toi, tu ne souffres plus comme il a souffert, mais qu'à travers ces souffrances, tu puisses recevoir l'héritage de son sacrifice à la croix. Sur la croix, il a pourvu à l'œuvre d'un salut parfait. La guérison, la délivrance, il a brisé la malédiction, il a libéré les captifs, il a pourvu aux dons spirituels, il a pourvu à la provision divine. Je ne sais pas ce que tu as comme problème, dans quelle souffrance tu es aujourd'hui, mais tout est suffisant. Et quand il est mort à la croix et qu'il s'est écrié « Eli, Eli, lama, lama, shtani » et qu'il a rendu l'âme, il a rendu l'esprit, la Bible déclare en cet instant, il y a eu l'éclipse sur toute la surface de la terre. Et les gens qui l'ont crucifié même ont dit que celui-ci était certainement le Fils de Dieu. Ça, c'est la puissance de la croix. Alléluia. Même les gens qui t'ont cloué, qui t'ont crucifié, qui t'ont condamné, parce que tu vas comprendre, tu vas expérimenter la puissance de la communion aux souffrances de Christ, cette puissance est capable d'ouvrir les yeux de ceux qui ne voient pas, afin qu'ils voient en toi la gloire de Dieu, qu'ils voient en toi le Fils de Dieu, qu'ils voient en toi la fille du roi des rois, et qu'ils disent assurément celle-là aussi était la fille du roi de roi. Assurément celui-ci aussi était le fils de Dieu. Quelqu'un ici acclame Jésus. Alléluia. 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 Ça c'est la puissance de la croix. N'oubliez pas que cette puissance a un lien avec les souffrances. Et quand l'apôtre Paul dit mon but est de connaître Dieu, la communion de ses souffrances, le mot communion ici veut dire en fait une union. Mais pourquoi l'apôtre Paul parle de union avec les souffrances de Christ? Ça veut simplement dire qu'en fait, Christ veut nous rendre participants de ses souffrances. Oh, pasteur, toi-même tu as dit que aucun homme ne peut souffrir la souffrance dont Jésus a souffert. Comment je peux être participant de ses souffrances? Oui, nous pouvons être participants des souffrances de Christ. Alléluia. Je vous invite à prendre avec moi vos Bibles dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 2. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien de combats. Prenons également 1 Pierre, chapitre 5, verset 10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inné. Voyez-vous, nous ne sommes pas les seuls aujourd'hui à souffrir sur la terre. Jésus a souffert, les apôtres aussi ont souffert. Là, on a l'apôtre Paul qui parle L'apôtre Pierre également qui parle. Je pourrais prendre autant d'exemples des apôtres. Tout le monde a souffert. Et la Bible déclare que, sachez que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères partout dans le monde. Donc, les chrétiens ne sont pas épargnés de la souffrance. Jésus a souffert. C'est la souffrance ultime. Mais Jésus veut et permet que nous puissions aussi souffrir sur la terre à travers les épreuves par lesquelles nous passons, dans le but de nous rendre participants de ces souffrances à une moindre mesure. Et l'apôtre Paul nous explique pourquoi nous devons prendre part aux souffrances de Christ. D'ailleurs, Jésus même le dit quand il nous enseigne sur la Sainte Cène, lorsqu'il célèbre la Pâque avec ses disciples, il dit, chaque fois que vous prendrez ce pain, vous vous souviendrez de ma mort jusqu'à ce que je revienne. Quand vous prendrez ce vin, c'est le sang qui a été versé pour vous. Et quand nous prenons la Sainte Cène, nous devons comprendre que c'est un moyen aussi d'être en communion avec les souffrances de Christ à la croix. C'est une alliance à travers le sang de Christ, mais c'est en même temps un souvenir de la mort de Christ, des souffrances qu'il a endurées à la croix pour nous. Et l'arrivée sur la terre également, que nous puissions vivre des épreuves. À travers les épreuves, Dieu veut nous amener à nous souvenir ce dont Jésus a souffert à la croix. Ce ne sera jamais au même niveau. Jamais ça ne pourra égaler ce que Christ a souffert à la croix. Mais à travers la souffrance, nous pouvons réaliser ce que Christ a vécu à la croix de Golgotha. Et que si nous pouvons souffrir ça à une petite échelle, à combien plus forte raison ce que Christ a souffert à la croix. Et je pensais à cette histoire dans Genèse, lorsque Dieu arrive dans le jardin et que l'homme a péché parce que la femme lui a donné le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et que Dieu parle à l'homme, parle à la femme, parle au serpent. Et là, Dieu dit au serpent, il dit, parce que tu as fait cela, tu vas désormais marcher sur ton ventre. Tu vas ramper. On ne sait pas trop ce que le serpent était autrefois. Peut-être qu'il avait quatre pattes, comme certains reptiles, comme les lézards, comme les crocodiles, etc. Enfin bref. Mais toujours est-il que la parole de l'Éternel est claire. Et le verset le dit clairement. Et Dieu maudit le serpent. Et la parole de malédiction qui a été déposée sur le serpent a été claire. Tu vas marcher sur ton ventre. Et tu mangeras la poussière de la terre comme nourriture. Mais quand Dieu parle à l'homme et à la femme, il n'utilise pas le mot maudit. C'est pourquoi il est important quand vous lisez la Bible, de la lire entre les lignes. Il n'utilise pas le mot maudit. Il dit à l'homme, parce que tu as écouté la voix de la femme, eh bien, tu mangeras la sueur de ton front. Et de ce fait, il va rendre la tâche de l'homme plus compliquée. Quand il parle à l'homme, la Bible dit que Dieu maudit la terre et non l'homme. Or, au départ, Dieu avait déjà dit à l'homme, tu vas cultiver la terre. Et Dieu savait que pour que l'homme gagne sa vie, pour que l'homme puisse vivre, il fallait qu'il cultive la terre. Donc la seule chose qu'il pouvait faire pour faire comprendre à l'homme que ce qu'il a fait n'était pas bon, c'est d'envoyer la malédiction qui devait être envoyée à l'homme sur la terre. Donc la Bible dit, Dieu maudit la terre, pas l'homme. Dis à ton frère, tu n'es pas maudit. Par contre, la terre a été maudite à cause de l'homme. Et quand il se retourne vers la femme, qu'est-ce qu'il dit à la femme? La Bible n'a pas dit, et Dieu maudit la femme. Non! Si tu es une femme, dis à ta soeur, tu n'es pas maudite. Il dit à la femme, parce que tu as écouté la voix du serpent, j'augmenterai les douleurs de tes grossesses. Dieu utilise le verbe augmenter. Dès ton frère, Dieu parle bien français. C'est-à-dire, il sait choisir ses mots. Hein? Augmenter, ça veut dire ajouter plus. Et si on ajoute plus, ça veut dire que il y en avait déjà. Voilà. Parce qu'on n'augmente pas quelque chose qui n'existe pas. Quelqu'un me comprend ici? Donc, ça veut dire qu'en fait, Dieu avait déjà prévu que la femme accouche avec des douleurs. J'espère que quelqu'un me suit ici. Dis à ton frère, est-ce que tu es connecté? Dis à quelqu'un, il nous amène quelque part. Suivons-le. Dieu veut nous expliquer pourquoi les souffrances. Alléluia. Le thème de mon message est pourquoi les souffrances. Alors, Dieu dit à la femme, j'augmenterai Ça veut dire que la femme, Dieu avait déjà prévu qu'elle accouche avec des douleurs. Les douleurs ne sont pas arrivées après le péché. Et les douleurs, la femme n'était pas la conséquence du péché. Tout comme le travail pour l'homme. Dieu avait dit à l'homme, quand il a créé l'homme, il a dit, je te place dans le jardin afin que tu cultives la terre. Donc déjà, avant même que Adam rencontre Ève, il savait que sa mission sur la terre, c'était de cultiver la terre. Alléluia! Donc avant que le péché n'existe, la notion d'effort existait déjà. La notion de souffrance existait déjà. Et effort plus souffrance signifie souffrance. Parce que quand tu fais un effort, tu souffres. Donc c'est de la souffrance. Et quand tu souffres aussi. Quelqu'un acclame Jésus ici. Alléluia. Alléluia. Donc en un mot, la notion de souffrance existait avant le péché. Amen, amen. Donc pourquoi Dieu a permis la souffrance? Quand il parle à la femme, il dit, j'augmenterai les douleurs de tes grossesses. Mais la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Alléluia. Donc il y a un lien entre les souffrances de la femme et la postérité de la femme. Alléluia. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, Dieu ici est en train de dire à la femme, ok, tu vas souffrir, mais il y a une solution à tes souffrances. Et la solution à tes souffrances va être la postérité qui sera engendrée, qui sortira de tes entrailles. Et quelques temps plus tard, on voit l'accomplissement de cette prophétie que Dieu libère dans Genèse. Parce que Jésus arrive, amen, amen, et Jésus dit, voilà, il regarde dans le monde spirituel avec les yeux de l'esprit et il dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Alléluia, dis à ton frère. Alléluia, tu marches sur les serpents. Tu marches sur les serpents. Tu écrases le serpent. Dieu a dit la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Dis à ton frère, tu es de la postérité de la femme. Tu es destiné à écraser la tête du serpent. Mais le premier-né de cette postérité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il a été le premier à écraser la tête du serpent à la croix. La Bible déclare que là, à la croix, il a dépouillé les dominations, les autorités, les principautés. Il les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Et il a tout mis sous nos pieds. Il nous a donné pour chef suprême à nous qui sommes ses frères. Alléluia, ses sœurs. Oh, dis à ton frère, tu es le frère de Jésus-Christ. Tu es la sœur de Jésus-Christ. Tu es l'église de Jésus-Christ. Et sous tes pieds, l'aîné de cette génération, de cette lignée, après avoir écrasé le serpent sous ses pieds, l'a mis également sous nos pieds afin que nous puissions continuer à pérenniser la victoire de la croix sur la terre en écrasant la tête du serpent. Alors si tu le comprends, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Alléluia. Donc derrière la souffrance se cache l'autorité d'écraser la tête du serpent. Derrière la souffrance se cache la puissance de marcher sur les serpents et les scorpions. Ah, derrière la souffrance se cache la manifestation de la gloire de Dieu à travers l'Église. Voilà pourquoi Dieu dit qu'à travers l'Église, le monde verra la sagesse infiniment variée de Christ. Dans votre capacité à bien vivre les épreuves. Lorsque dans ton emploi, ton lieu de travail, pendant que tout le monde est effrayé parce que c'est la crise économique, parce qu'on va licencier, toi tu arrives en chantant des cantiques. Tu es toute souriante et rayonnante, pendant que les autres stressent et qu'ils ont recours à des médicaments pour tenir la journée, toi tu arrives rempli du Saint-Esprit, rayonnant de joie, et tu abordes tes journées avec enthousiasme, avec joie, avec allégresse, avec bonheur. Et les gens vont se poser la question, le monde va se poser la question. Comment ils font pour ne pas subir le poids des souffrances que tout le monde ici connaît? Pendant qu'on parle de crise économique, eux, ils sont tranquilles. Pendant qu'on parle de maladie, d'épidémie, de grippe aviaire ou quoi, eux, ils sont tranquilles, ils n'ont pas peur de se frotter à d'autres personnes. Pendant qu'on parle d'Ebola à gauche, à droite, ils ne sont pas paniqués. Qu'est-ce qui fait leur particularité? Qu'est-ce qui fait leur spécificité? Mais la Bible est claire. Comment les reconnaîtrons-nous? Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront une nouvelle langue. En fait, c'est une espèce de personne. C'est une race de personnes qui est née de la postérité de la femme. Alléluia. Qui écrase le serpent, qui marche sur le serpent, les scorpions. En fait, qui n'a rien à craindre. Parce que simplement, à travers les souffrances de Christ, ils ont reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. À travers les souffrances de Christ, ils ont expérimenté la puissance de sa résurrection. À travers les souffrances de Christ, ils ont connu le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Voilà ce que les souffrances de Christ nous ont apporté. À travers les souffrances de Christ, ils ont déjà été guéris. Donc, ils n'ont plus à craindre les maladies. Ils n'ont plus à craindre les épidémies. Ils n'ont plus à craindre la terreur. Ils n'ont plus à craindre les plaies de l'Égypte. Ils n'ont plus à craindre la malédiction. Parce qu'ils sont immunisés. À travers les meurtres sur de Christ à la croix. À travers les souffrances de Christ à la croix. Est-ce que tu comprends le lien qu'il y a entre les souffrances de Christ et la puissance de Dieu? La puissance de sa résurrection. Ah, si tu comprends ça, mon frère, acclame le Seigneur là où tu es. Ah, mandarebrosa katarabababababa. Voilà pourquoi le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui avons cru et qui croyons, alors ce message est une puissance. Alléluia. Je prie ce matin que Dieu ouvre tes yeux, que tu comprennes cela. C'est une puissance. Dis, c'est une puissance. Donc, de la même manière que Jésus-Christ a manifesté la puissance de Dieu à travers ses souffrances, Dieu aussi veut manifester sa puissance dans l'Église à travers la souffrance. Alléluia! À travers les souffrances dont nous souffrons, Dieu veut te permettre d'expérimenter sa puissance. Amen, amen. Donc Dieu veut te rendre participant de ses souffrances. Et comme on l'a lu dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 2, lorsque nous souffrons, que nous menons ces combats, Dieu fait quelque chose d'extraordinaire dans nos vies. L'apôtre Paul dit ici, après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous prime de l'assurance. Alléluia. C'est-à-dire que les souffrances doivent te faire prendre de l'assurance. L'assurance de ton salut. C'est-à-dire que plus tu souffres, plus tu dois en fait être enraciné dans la foi. Parce que la foi est une ferme assurance. Alléluia. Donc les souffrances que tu as endurées jusqu'à présent devraient te permettre d'être plus enraciné dans la foi. Normalement, quand un chrétien souffre, les souffrances dont il souffre ne doivent pas l'écarter du Seigneur, ne doivent pas l'éloigner de la voie du Seigneur, ne doivent pas l'éloigner de l'Église, ne doivent pas l'amener à maudire Dieu, ne doivent pas l'amener à se poser des questions de dire, mais où est Dieu, pourquoi m'abandonner? Humainement, c'est normal. Mais au bout du compte, ces souffrances doivent t'enraciner dans l'assurance, l'assurance de la foi. Dis à ton frère, après ce message, tu vas aimer les temps de souffrance. Mais ne t'inquiète pas. Alléluia. Rassure-le, les ténèbres ne régneront pas toujours. Les souffrances durent un temps. C'est pour cela que le verset qui suit, oh my God, 1 Pierre, chapitre 5, verset 10, nous dit, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle après que vous aurez souffert un peu de temps. D'être offert la souffrance sur la terre ne durera qu'un peu de temps. Un peu de temps. Bien-aimés, la différence entre la malédiction et la souffrance, c'est que la malédiction est un cycle infernal jusqu'à ce qu'on la brise. Là, elle s'arrête. Mais la souffrance, elle dure un peu de temps. Oh, acclame Jésus, alléluia. Alléluia. Et j'entends quelqu'un me dire, oh, pasteur, ça fait 10 ans. Tu me dis, c'est un peu de temps. La Bible dit, un peu de temps. C'est pas moi qui le dis. C'est la Bible. Oh, parce que ça fait quand même 20 ans, je suis dans cette galère. Un peu de temps. Ça veut dire qu'en fait, pour toi, les 20 ans là, si pour Dieu, 1000 ans est comme un jour, tes 20 ans là, c'est comme genre juste 30 minutes, 2 secondes. Quelqu'un acclame Jésus ici, alléluia. Tu ne peux pas comparer tes souffrances aux souffrances de Christ. Mais à travers tes souffrances, Dieu veut t'amener à goûter aux souffrances de Christ. À participer aux souffrances de la croix, à être en communion, c'est ça, être en communion avec les souffrances de Christ. Lorsqu'il dit à la femme, j'augmenterai les douleurs de ta grossesse, ça veut dire quoi? Pour comprendre ce verset, il a fallu que je fasse des recherches. Et j'arrive dans l'histoire de Gethsémané. Jésus en agonie à Gethsémané. Écoutez-moi. La Bible dit que là, il prie. Il dit, « Père, s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Jésus a vu la souffrance arriver. Il a vu la coupe. La souffrance est une coupe. Lorsque la mère du fils de Zébédée vient voir Jésus pour dire, est-ce que dans ton règne, tu ne peux pas prendre mes deux fils, un à ta droite et l'autre à ta gauche? Jésus a regardé et dit, femme, tu ne sais pas ce que tu demandes. Est-ce qu'ils sont capables de boire la coupe que je vais boire? Bien-aimé, il n'y a pas d'élévation sans souffrance. Il n'y a pas de gloire sans souffrance. Il n'y a pas d'autorité, de positionnement sans souffrance. Il n'y a pas de bénédiction sans souffrance. Au point même aujourd'hui, c'est les chrétiens cherchent la gloire. Ils cherchent l'élévation. Ils cherchent la bénédiction. Ils cherchent toutes ces choses, la puissance, mais sans la souffrance. Ils veulent la bénédiction fast food. Ils veulent la bénédiction McDo, chicken burger. Ils veulent la bénédiction KFC. Ils veulent la bénédiction drive. Alléluia, on acclame Jésus, alléluia. Mais la Bible dit qu'il n'y a pas de bénédiction sans souffrance parce que Jésus lui-même, il a pris l'obéissance au travers des choses dont il a souffert. Et quand il a Gethsémané, il voit la coupe. Il dit, c'est une coupe. Il voit la coupe, il dit, Père, c'était possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mais toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu... Et quand il est passé par la croix, la Bible déclare qu'il a dû prier. Il a prié pour qu'il accepte la volonté de Dieu. Il a prié au point que sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang. Et l'apôtre Paul nous dit dans le livre d'Hébreux que le jour où il a prié là, il a prié en poussant de grands cris à celui qui pouvait le sauver la mort. Et certains commentateurs bibliques dans mes recherches font le lien avec une femme enceinte qui en travaille, qui est sur le point d'accoucher. Ils disent qu'en fait c'est comme si Jésus était enceinte. Et effectivement Jésus était enceinte. Cette grossesse était la grossesse du salut de l'humanité. Et il était arrivé à un point maintenant, est-ce qu'il fallait qu'il enfante maintenant? C'était dur, comme une femme qui, elle n'en peut plus. Et les sages-femmes disent, pousse, je suis fatiguée, pousse, est-ce que je ne peux pas faire autre chose? Il n'y a pas un autre moyen, pousse! Alléluia, alléluia. Oh, dis à ton frère, pousse! Pousse! Je me souviens quand ma maman était en travail, elle me racontait quand elle était en travail de moi. C'était un bébé, 4 kilos, combien je ne sais plus trop. Donc vraiment, j'avais bien mangé dans le ventre de ma mère. Mais au moment de sortir, c'était difficile. Maman était fatiguée. Elle n'avait plus de force pour pousser. Et la sage-femme, cette femme-là, j'ai dit, tu veux tuer l'enfant ou quoi? Mais pousse l'enfant, je suis fatiguée. Il y a une qui a dit, tu es fatiguée? Pousse! Quelqu'un acclame Jésus ici, alléluia! Je crois qu'il y en a ici qui sont enceintes de plusieurs bénédictions. Ta souffrance là traduit une grossesse. Alléluia, ta souffrance révèle une grossesse. Plus l'enfant est gros, plus la souffrance est grande. Parce que pour qu'il sorte, il faut pousser. Et tu peux compter sur moi. Putain. Quelqu'un acclame Jésus, alléluia. Alléluia. Et si tu vois quelqu'un à côté de toi qui est enceinte d'une bénédiction, qui est enceinte d'un miracle et qui paraisse qui néglige et qui dit il ne peut plus pousser, donne-lui une bonne gifle spirituelle et dit pousse. Acclame Jésus, alléluia. Attention, j'ai bien dit une gifle spirituelle. Donc, il ne faut pas profiter maintenant. Hein? Allez régler vos comptes à vos maris, à vos femmes, vos enfants. Vous dites, quand je te parle, ce comportement-là, allez, non. On se calme. Et Jésus était enceinte du salut de l'humanité à Gethsémané. Il a dû pousser, il a souffert. Sans péridurale. Oui, mon frère. Il a dû endurer la souffrance. C'est sans péridurale, pourquoi? Parce que même à la croix, Jésus lui-même s'est écrié, « Eli, Eli, lama, lama, shtani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» En fait, ce n'est pas que Dieu l'avait abandonné. Dieu a détourné son regard de lui parce qu'effectivement, il était sale de péché. Ça, c'est la première explication. Premier niveau de révélation. Le second niveau de révélation, c'est quand il dit Eli, Eli lama. Et souvenez-vous, quand Élisée voit Eli monter, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et ce moment était crucial. C'était le moment de transfert d'onction entre Eli et Élisée. Donc quand Jésus s'écrit à la croix, Eli, Eli lama, mon père, Pourquoi m'as-tu abandonné? En fait, il voyait l'onction le quitter. Est-ce que tu crois qu'ils m'ont compris? Il voyait l'onction du Saint-Esprit le quitter. Et au moins, l'onction du Saint-Esprit l'a quitté. Jésus a senti sa douleur. Parce que tant que l'onction du Saint-Esprit est sur toi, on peut te taper. Tu ne sens pas la douleur. Donc, il a fallu que Dieu retire son onction sur lui pour que Jésus ressente la douleur, la souffrance. Et si Dieu ne le faisait pas, le diable aurait attaqué la justice de Dieu. Il serait allé se présenter devant lui et dit, qu'est-ce que tu fais là? Et tu appelles ça un sacrifice? Tu l'as mis à la couverture de l'onction, tu l'as injecté à la péridurale, il ne sent plus rien. Tu crois que ça c'est un sacrifice? Quelqu'un me comprend ici? Oh, acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus, alléluia. Donc Jésus a souffert sans péridurale. Et la Bible déclare, dans cette souffrance-là, c'était comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. On l'a traîné comme ça. Le roi des rois, mon Dieu, le Seigneur des seigneurs, le Fils de Dieu, Dieu lui-même sur la terre. On l'a traîné comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. On l'a amené à la croix. Il n'a point ouvert la bouche. Il n'a dit aucun mot. Aucun. Toi aujourd'hui, quelqu'un te regarde seulement du haut en bas comme on dit. Tu comprends? Hey, toi là, tu me connais. Jésus n'a rien dit. Toi aujourd'hui, on t'accuse de quelque chose. Il faut qu'on m'entende. Je dois expliquer. Il faut que. Mais tu veux expliquer quoi? Toi aujourd'hui, au travail, s'il y a une injustice, les autres, on augmente, toi on n'augmente pas. Ça y est, il faut que je fasse grève. Je vais aller voir les syndicats. Mais Jésus, il n'a point ouvert la bouche. Toi aujourd'hui, quand tu souffres un peu, ça y est, tu commences à ouvrir ta bouche. Tu commences à te poser des questions. Tu commences à maudire Dieu. Tu commences à maudire les frères. Tu commences à critiquer les frères. Même le pasteur. Ah, le pasteur, là, il n'a jamais le temps pour moi. C'est toujours pour les autres. Et quand moi j'appelle, il est toujours sur répondeur. Jésus n'a pas ouvert la bouche. Tu souffres de quoi? De quoi souffres-tu? Quelle est ta souffrance? Je ne sais pas. Dieu seul la connaît. Mais Jésus a été traîné dans la souffrance sans ouvrir la bouche. Bien-aimé, le silence est une puissance. Alléluia! Le silence est un pouvoir. Parce que le silence de l'homme face à l'injustice active la justice de Dieu. Si tu te justifies, Dieu n'a plus besoin de te justifier. Ta récompense, tu l'as déjà reçue. Malheureusement, tu l'as reçue des hommes. Et celle que Dieu te réservait était beaucoup plus grande. Quelqu'un me comprend ici? Quelle est ta souffrance aujourd'hui? N'ouvre pas la bouche. Celui qui ferme sa bouche, Dieu ouvrira sa bouche pour lui. Fléchis le genou comme Jésus à Gethsémané. Prie jusqu'à ce que même ta sueur se transforme en glomeur de sang. C'est-à-dire, répands ta souffrance au pied de la croix devant le Seigneur. Lui seul est capable d'entendre ta souffrance, de la comprendre, de la mesurer. L'homme ne peut pas mesurer ta souffrance, ce n'est pas possible. On ne peut pas comparer les souffrances, ce n'est pas possible. Dieu seul est capable de comprendre ta souffrance. Celui qui fléchit le genou devant Dieu tiendra debout devant les hommes. Quelqu'un me comprend ici? La puissance de la souffrance nous amène à affermir notre assurance, nous amène aussi à régner avec lui. La Bible déclare que, après avoir souffert un peu de temps, nous régnerons avec lui. Toi, tu veux régner aujourd'hui, tu n'as même pas souffert. Le règne que tu recherches dans n'importe quel domaine de ta vie, que ce soit au niveau conjugal, au niveau sentimental, au niveau financier, au niveau ministériel, tu dois d'abord souffrir. Une vérité fondamentale, écoutez-moi bien, quand Dieu dit à la femme, j'augmenterai les douleurs de ta grossesse, le lien qu'il y a entre les douleurs de la grossesse de la femme et ce que Jésus a vécu à la croix, c'est que chaque fois que la femme est enceinte, qu'elle est sur le point d'accoucher, elle est en douleur, en travail, chaque fois qu'elle crie de douleur, elle doit se souvenir de ce que Jésus a souffert à la croix pour elle. De la même manière qu'elle enfante aujourd'hui avec douleur, c'est la même manière que Jésus a enfanté l'Église avec douleur dans le jardin de Gethsémané. Donc les douleurs de la femme que Dieu a augmentées, ce n'était pas une malédiction. C'était en fait une révélation du sacrifice que Jésus devait accomplir à la croix des siècles plus tard. Donc chaque fois que tu souffres, pense à ce dont Jésus a souffert à la croix. Chaque fois que tu passes par une épreuve, pense à la souffrance de Christ à la croix. Que les degrés de tes souffrances augmente ton niveau de révélation de qui est Dieu, de l'amour de Dieu pour toi, du sacrifice accompli par Jésus à la croix, de sa grâce sur ta vie. Que chaque fois que tu souffres, plus ta souffrance est grande, plus le niveau de révélation de la grâce, de l'amour de Dieu, du sacrifice à la croix doit être grand dans ton esprit. Ce n'est que comme ça que tu peux connaître Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, mon but est de le connaître. La communion de ses souffrances et la puissance de sa résurrection. Le problème aujourd'hui, c'est que les chrétiens vivent mal leurs souffrances, vivent mal leurs épreuves. Voilà pourquoi ils ne connaissent pas Dieu. La plupart des chrétiens, quand ils souffrent, ils maudissent Dieu, comme j'ai dit. Ils sortent de là avec des aigreurs, des frustrations, des sentiments même de vengeance. Je connais des chrétiens qui disent, ah, c'est pas grave. Il m'a fait ça. C'est pas grave. Je vais souffrir. Mais quand je sortirai là, il verra. Mais il verra quoi? Ce n'est pas comme ça que tu dois souffrir. Si réellement cette souffrance t'a révélé l'amour de Christ, en fait, tu dois faire comme Jésus. Pendant qu'il souffrait, au lieu de chercher la vengeance, au lieu de maudire ses ennemis, il a prié pour eux. Il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Quelqu'un me comprend ici? Voilà comment tu dois traverser les souffrances, les épreuves, les difficultés. Oublie ceux qui sont à l'origine, parce que ce ne sont que de simples instruments que le diable utilise. L'être humain est un pion que le diable utilise, malheureusement. Un instrument, il n'est même pas conscient de ce qu'il fait. Voilà pourquoi Jésus prie pour eux. Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Comment tu peux en vouloir à quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait? Hier, je parlais avec un couple, ils ne sont pas chrétiens. Ils sont au bord du divorce. Je parle avec eux. La femme dit, je ne peux plus revenir avec lui. Ils sont en séparation. Je ne peux plus revenir. Je dis, mais pourquoi? Non, parce que quand j'ai perdu mon père. Le mari dit, mais comment ça? J'étais là. Oui, mais tu étais là sans être là. Je dis, mais c'est un peu trop philosophique tout ça. Explique-moi. Non, mais j'ai souffert le jour même. Et quand je rentre à la maison, le mari, lui, il était sur un autre registre. Il s'est dit, ah, ma femme a perdu son père. Donc moi, je m'occupais de tout à la maison. Donc le mari faisait tout à la maison. Le mari préparait, faisait le linge, tout. Elle ne voyait pas ça. Elle voulait que son mari lui parle, son mari soit avec elle. Le mari dit, mais tout ce que je faisais là, c'était pour toi. Non. Tu voulais être avec tes enfants. Et j'étais, mon Dieu. Donc elle était en colère. Elle dit, j'ai de l'amertume pour toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, elle a mal traversé son épreuve. Et l'épreuve lui a laissé des traces dans le cœur. D'amertume, d'aigreur. Et ces traces-là ont causé la séparation qui risque d'aboutir au divorce. Je prie pour eux que ça n'arrive pas là. Parce que quand elle est en train de vivre ces souffrances-là, elle regarde l'homme et elle se dit que c'est lui qui est la cause de mes souffrances. Alors que ce n'est pas lui. La Bible déclare que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les puissances des ténèbres. Ce n'est pas l'homme qui a l'origine. Les comportements des hommes traduisent des choses. Ça peut être Dieu qui utilise l'homme, donc il va manifester des comportements positifs à ton égard, qui vont t'encourager, qui vont t'édifier. Il va prononcer des paroles qui vont t'encourager, qui vont t'édifier. Tu me comprends? Mais si c'est le diable qui utilise l'homme, ça va être l'effet inverse. Dans tous les deux cas, l'homme ne sait pas ce qu'il fait. Ah Seigneur, que cette parole aide quelqu'un ici ce matin. Tu devrais plutôt prier pour la personne, pour la gagner. Les violences conjugales, dans les relations parents-enfants, les violences sociales, ces hommes ne savent pas ce qu'ils font. Ils ont besoin de Jésus. Ils ont besoin de la grâce de Dieu. Ils ont besoin de comprendre l'amour de Dieu. Ils ont besoin de la révélation de l'amour de Dieu pour eux aussi. Donc Dieu permet que tu passes par les épreuves pour que tu puisses comprendre cela. Et quand tu sors des épreuves avec un cœur plein d'amour, tu vas bénir. Tu ne feras que bénir. Celui qui t'a volé, tu vas donner aussi. Eh, pasteur, non, là c'est trop dur. Il m'a volé, je lui donne encore. Oui, Jésus a dit, s'il prend ta tunique, qu'est-ce qui est plus cher, la tunique ou le manteau? S'il prend ta tunique, laisse-le aussi prendre ton manteau. Ah, pasteur, c'est ça le message de l'amour. Il te frappe à la joue gauche, donne aussi la droite. Ah, non, je ne peux pas faire ça. Eh bien oui, ça veut dire que tu n'as pas compris le mystère de la souffrance. Ça veut dire que si tu as fait du mal et que c'est la cause du divorce, pardonne. Reviens avec ton mari. Reviens avec ta femme. Je parle aux hommes. J'ai envie de finir, mais l'esprit me saisit. Je parle aux hommes. Un jour, je parlais avec un couple. Je pose la question au monsieur. Je dis, dis-moi. Parce qu'en fait, le monsieur, lui, il était infidèle. Et donc, la femme pleurait. On a essayé, c'était compliqué. Et puis, je lui pose la question un jour. C'était une parole de sagesse. Je crois que c'est Dieu qui m'a inspiré cette parole. Je lui dis, arrête, mon frère. Tout le temps, on se retrouve ici pour régler les mêmes problèmes. À un moment donné, il faut que tu arrêtes. Tu es déjà adulte, tu as des enfants. À un moment donné, ça doit s'arrêter. Même les païens, ils font leurs ambiances à gauche, à droite. Ils font leurs bêtises, excusez-moi l'expression. À un moment donné, ils se rendent compte que non, ils ont tourné en rond. Ils se rendent compte que ça ne sert à rien, ça ne vaut rien, ça ne leur a rien apporté. Ils s'arrêtent, ils s'asseyent, ils se disent, c'est bon. Je suis quand même l'aîné de ma famille. Je suis quand même un père de famille. Ça suffit, ça ne m'a rien apporté. J'arrête. Et ça s'agit. Mais toi, tu es de surcroît chrétien. Comment tu ne comprends pas ça? Malgré ça, ça se répétait à chaque fois. Un jour, j'arrive, je lui pose la question. Je crois que là, l'esprit du Seigneur était vraiment sur moi. Je dis, bon, frère, ce que tu es en train de faire là, tu trompes ta femme. Maintenant, si aujourd'hui même, tu apprends à l'instant que ta femme est allée avec un autre homme, qu'est-ce que ta réaction est? À l'instant, il dit, ah non, non, non. Ah non, jamais, jamais. Tu dis, ah. Mais pourquoi tu dis jamais? Oh non, 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 c'est pas possible, non, non. Jamais, à mes fesses, moi je le tue cet homme, je le tue. Ah, tu le tues.
Pourquoi je dis ça? Dieu parle aux hommes aujourd'hui. Les femmes sont promptes à pardonner. Dieu te dit, je ne sais pas à quel homme Dieu parle. Même si ta femme t'a trompé, pardonne.
Là, il n'y a plus beaucoup d'amen. Frère, c'est tout. Là, il n'y a plus d'amen, là.
Oh non, pasteur, ça m'a trop fait souffrir. Ce n'est pas possible. Non. Non, c'est dur. Non. Ah, la honte. Ah. Tu ne sais pas que ce qui peut tuer un homme. Hein? L'une des choses qui peut tuer le plus un homme, c'est la honte.
Oui, la honte, Jésus l'a connue à la croix pour toi.
La honte, Jésus l'a portée à la croix pour toi. À qui Dieu parle, peut-être pas ici, peut-être sur Internet, pendant que nous sommes en train de prêcher. Il y en a qui nous regardent sur la télévision, sur Internet. Peut-être c'est à quelqu'un qui est en train de nous regarder aujourd'hui. Pardonne. Ta souffrance t'amène à connaître Christ. Ta souffrance t'amène à connaître l'amour de Dieu. À une autre dimension. Ta souffrance t'amène à connaître la puissance de sa résurrection. Les épreuves par lesquelles tu passes t'amènent à découvrir Dieu sous plusieurs facettes. Oh, regardez Ruth. Ruth a tout perdu. Elle a perdu son mari. Mais la souffrance de Ruth l'a introduite dans la lignée du Messie. Elle est née Moabite, maudite, à Moab, terre maudite, de malédiction, de femme maudite. Elle s'est retrouvée sur une terre sainte, Israël. Elle a été la mère, l'ancêtre, oh my God, du Messie. Parce que Ruth va rencontrer Boaz. Boaz dit non, je ne te touche pas, Ruth. Dors là. Jusqu'au matin. Et vas-y discrètement avant qu'on te voie. Parce qu'il y a quelqu'un qui est avant moi qui a un droit de rachat, qui est plus jeune que moi. Et si celui-là te refuse, alors moi maintenant je peux te racheter. Ruth avait discerné qu'à travers la connexion avec Boaz, Dieu l'introduirait dans l'alliance de la lignée du Messie. Dieu changerait son identité, changerait son statut, changerait sa personne, changerait son avenir. Quelqu'un me comprend ici? Ruth a accepté la souffrance. Quand sa belle-sœur a décidé de partir, lorsque Naomi leur a donné la liberté, Orpa a dit, je m'en vais. Ruth a regardé. Là où je viens, c'est Moab. Ma addiction. Je suis une fille moabite, maudite. Je ne veux pas commettre l'erreur de la femme de Lot. La femme de Lot, quand Dieu leur a demandé de sortir de Sodome et Gomorre, Dieu leur a donné une parole claire. Allez-y tout droit. Ne regardez pas derrière vous. Ne regardez pas l'abomination qu'il y a derrière. L'apôtre Paul dit, oubliant ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation. Je n'ai pas encore saisi, mais je cours vers. La femme de Lot s'est arrêtée. Elle s'est retournée. Et quand ses yeux se sont reconnectés à Sodome et Gomorre, la Bible dit, à l'instant, la femme de Lot fut changée. En statue de sel. Ça veut dire qu'elle a été comme une momie. Là. Bloquée. Pour te dire, ma soeur, chaque fois que tu regardes derrière toi, ton passé te bloque. Ne regarde pas ton passé. Chaque fois que tu regardes ton passé, il te bloque. Il t'empêche d'avancer. Statue de sel. Ruth n'a pas voulu regarder à ce qu'il y a en arrière, mais elle a regardé ailleurs. Alléluia. Quand elle a regardé Naomi, elle a vu en elle autre chose. Elle n'a pas vu une femme dépouillée qui a perdu son mari, qui a perdu ses enfants, qui a perdu tous ses biens, qui n'avait plus rien, qui revenait dans sa terre natale dépouillée. Elle a vu au-delà de cette apparence pauvre, ruinée. Elle a vu le Messie. Elle a vu Christ. C'est la révélation de Christ qui a mené Ruth à faire alliance avec Naomi. Ruth a vu le sacrifice de la croix avant toi. Ruth a vu le Messie. Ruth a vu la postérité de la femme avant toi. Ruth a regardé, elle a dit, je ne repartirai pas à Moab. C'est fini là-bas. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses deviennent nouvelles. Et qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire, où tu iras, j'irai. Écoutez ceci. Ton Dieu sera mon Dieu, my God. Et cette alliance a introduit Ruth dans la lignée de Christ. Parce que Ruth va rencontrer Boaz, comme je disais tout à l'heure. Boaz va avoir un droit de rachat sur elle. Et Boaz va faire des enfants avec elle. Et donc, vous savez que Boaz était l'ancêtre de Jésus-Christ, parce que c'est Boaz et Ruth, ils ont donné naissance à Isaïe. Isaïe qui est le père de David. Et David qui est le père de Jésus. Alléluia. Matthieu chapitre 1. Merci Seigneur. Vous avez commencé à voir les prénoms des mamans. Vous avez vu les prénoms? Vous cherchez les prénoms pour les enfants, non? Marika, t'es où? Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra jusqu'à Sava, Judas. Judas engendra de Tamar, Pharès et Zara. Zara, c'est un bon prénom, ça. Pharès engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nasson. Qui veut un prénom à son fils? Nasson. Nasson, qui veut Nasson ici? Salmon, Boaz de Rab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed de Ruth engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme de Ri, etc. Donc, voyez-vous, Jésus est né de la lignée de David, fils de David. Voilà pourquoi quand Bartimée crie, aïe, aïe, il active là quelque chose de puissant. Bartimée avait vu la puissance de la croix. Ah, on lui a dit, c'est Jésus de Nazareth. Il dit, on ne voit pas certainement la même chose. Moi, je vois ici Jésus, fils de David. Alléluia. Bartimée avait déjà vu la puissance de souffrance de la croix. Il avait activé à travers son cri la puissance de sa résurrection. Voilà pourquoi Bartimée a été guéri à l'instant. My God, je sens la révélation. Alléluia. Quelqu'un me comprend ici? Et qu'est-ce que Bartimée fait? Il crie, il dit, Jésus, fils de David. Pourquoi? Parce que fils de David, c'est la tribu de Judas. Judas, dans son essence propre, veut dire louange à Dieu, oui. Mais Judas aussi, c'est la tribu sur laquelle Jacob a prophétisé. Lorsqu'il prophétise sur les 12 fils, sur les 12 tribus d'Israël, il dit à Judas, il dit, Judas, tu es un jeune lion. Alléluia, Judas était un jeune lion qui incarne la force, qui incarne le courage, qui incarne l'autorité, la puissance. Mais il dit encore à Judas, il dit, le sceptre de la royauté ne se donnera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Le Shiloh, c'est Jésus, le Messie. Alléluia, jusqu'à ce qu'il vienne à la croix. Oh, il dit, le sceptre de la royauté ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain entre ses pieds. Il ne met l'autorité est attachée aux pieds de ceux qui sont connectés à la tribu de Judas. Et sur le plan spirituel, vous êtes de la tribu de Judas, juif par la nouvelle naissance, parce que c'est concis de cœur. Alléluia. Oh, mais voyez-vous, les souffrances de Ruth l'ont introduite dans la lignée de Judas. Elle est devenue juive à travers la lignée de Judas. Elle a engendré même la lignée de Judas. Et aujourd'hui, Ruth n'est plus considérée comme moabite. Ruth est citée dans la généalogie de Jésus-Christ. Quel exemple pourrais-je encore prendre? Lève-nous, on va prier. Merci Seigneur, oh Dieu. la communion de tes souffrances et la puissance de ta résurrection. Je ne sais pas ce dont tu souffres aujourd'hui. Est-ce que tu peux voir au-delà de tes souffrances la puissance de la croix? Est-ce que tu peux voir au-delà de tes souffrances la puissance de sa résurrection? Alors tu pourras dire de tout mon cœur, alors c'est la vengeance. Dieu Tout-Puissant, tu es grand. Dieu Tout-Puissant, tu es grand. De tout mon cœur, alors c'est la vengeance. Vous voyez, les souffrances de Anne, lorsque sa rivale Pénina l'a mortifiée, ses souffrances ont amené Anne à enfanter l'un des plus grands prophètes d'Israël, Samuel. Je prie ce matin que les souffrances que tu endures aujourd'hui t'amènent à enfanter une grande bénédiction. Mais comprends que la première chose, c'est que les souffrances dont tu souffres, que tu endures, doivent t'accorder la révélation de la grandeur de l'amour de Dieu pour toi. Parce que toi qui souffres pour un peu de temps, imagine combien Jésus a souffert pour toi et comprends que son amour a été grand pour toi. Et chaque fois que tu souffres, que ça te pousse à aimer davantage Dieu, que ça te pousse à craindre davantage Dieu, que ça te pousse à adorer un peu plus en profondeur Dieu, que ta vie spirituelle prenne une nouvelle dimension à travers les souffrances dont tu souffres aujourd'hui, que tu traverses aujourd'hui, qu'il y ait une plus grande révélation de l'amour de Dieu pour toi. Et alors, la conséquence évidente, c'est que tu vas expérimenter la puissance de sa résurrection. À certains, vos souffrances vont vous amener à expérimenter le Dieu qui s'appelle Yahvé Tikenu, le Dieu de justice. Parce que vos souffrances ont une relation, ont un lien avec la souffrance, avec l'injustice. Vos souffrances ont un lien avec l'injustice. Lorsque la puissance de Dieu va se manifester à travers vos souffrances, vous allez expérimenter et découvrir et avoir une nouvelle révélation du Dieu qu'on appelle Yahvé Tikenu, celui qui fait justice. Pour d'autres, vos souffrances ont peut-être un lien avec le manque. Lorsque la puissance de la résurrection va se manifester, vous découvrirez le Dieu qui s'appelle Jéhovah Jireh, le Dieu de la provision. Pour d'autres, vos souffrances ont un lien avec les combats spirituels, contre la sorcellerie, contre la malédiction. Endurez patiemment vos souffrances de la bonne manière. Découvrez Dieu. Ayez une plus grande révélation de l'amour de Dieu à travers vos souffrances. Au bout de ces souffrances, vous allez découvrir Jéhovah Sabaoth, celui qui combat vos combats. Et vos combats ne seront plus vos combats, mais vos combats deviendront ses combats. C'est lui qui combattra pour vous. À d'autres, vous avez connu l'humiliation. Vous avez été humilié. Manque de reconnaissance dans votre famille. Manque de reconnaissance au niveau du travail. Manque de reconnaissance au niveau peut-être même ministériel, dans ton église. Manque de reconnaissance partout. Vous avez été humilié comme Jésus a été humilié à la croix. Vous avez connu la honte. Endurez ces souffrances avec la bonne attitude. Au sortir de ces souffrances, vous connaîtrez la puissance de sa résurrection. Et lorsque cette puissance va se manifester, vous connaîtrez le Dieu Elion, le Dieu de l'élévation. Il va vous tirer du fumier, il va vous élever et vous fera asseoir sur la table avec les grands. Vous aurez votre part avec les grands parce que vous avez réussi à traverser l'épreuve, la souffrance avec la bonne attitude. Vous connaîtrez le Dieu Elion. Et Elion sera pour vous le Dieu très haut, vous amènera au sommet de sa gloire. Je vois des gens ici être élevés dans leur fonction, être élevés dans leur travail, être élevés dans leur société, dans leurs entreprises. Je vois une reconnaissance. Une reconnaissance arrive. Une reconnaissance. Une reconnaissance arrive. recevez ce message.